on a commencé Ams. On a commencé hier, ou avant-hier plutôt. On a commencé dans cette rissa-là de Cheikh Abdel Mahsin Al-Abbad, Al-Badr, Hafidhahullah Wara'a, qui porte sur le sujet des gouverneurs. Les gouverneurs musulmans auxquels on se doit de prêter allégeance et d'obéir. Donc cet ouvrage, il porte sur les droits. Quels sont les droits des gouverneurs et des dirigeants musulmans? Parce que l'Asaf et Shadid, on est dans une période de troubles. Et les gens, une grande majorité des gens, ils cherchent plus à connaître les devoirs des gouverneurs avant de connaître leurs droits. Or, en vérité, c'est le contraire qui est demandé à la communauté. Parce que leur devoir, c'est avec Allah Azza wa Jal. S'ils le font, fabi wa ni'ma. Et si ils délaissent leur devoir, falahum indallahi maw'id. Ils ont un rendez-vous avec Allah Azza wa Jal. Mais nous, ce qui nous incombe à nous, c'est de connaître leurs droits. Quels sont leurs droits? Donc on a vu dans le précédent cours qu'on se doit de leur obéir du moment que cette obéissance ne constitue pas un péché. Du moment que cette obéissance ne constitue pas un péché. Très bien, Juan, je vous donne un exemple. Une personne, on va prendre l'Arabie Saoudite comme exemple. Une personne qui veut faire plusieurs fois le hajj. C'est-à-dire, il a fait son hajj obligatoire. Maintenant, il veut faire plusieurs fois le hajj. L'État saoudien a instauré des règles et des taxes et des choses à payer pour celui qui veut faire un pèlerinage surérogatoire. Maintenant, il y a des moyens de contourner ces taxes, il y a des moyens de contourner certaines restrictions. Est-ce que il est permis à la personne de contourner ces restrictions en sachant que là, il veut faire une adoration et que ces restrictions l'en empêchent? Est-ce qu'il lui est permis de contourner cela? Hein, Mohamed? Il lui est pas permis, comme l'évoque Cheikh Al-Uthaymeen. Et il dit que ça, c'est contraire à l'obéissance du gouverneur. Parce qu'on se doit de leur obéir dans des choses qui sont licites. Dans des choses qui sont licites. Et on ne doit pas leur obéir dans des péchés, dans des désobéissances à Allah Azza wa Jalla. Donc Cheikh Al-Uthaymeen ainsi que d'autres machers, ils sont de l'avis que on n'a pas le droit de contourner ces restrictions pour celui qui a un pèlerinage surérogatoire. À la kulli hal, qui peut nous évoquer la preuve qu'on avait citée sur l'obéissance au gouverneur? Il y en a plusieurs, Aslan. Lakin, man yadhkur dalilan? Ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulul amri minkum. Wa ulul amri minkum. وأولي الأمر من هم؟
العلماء وولاة الأمور.
أي نعم، العلماء وولاة الأمور وولاة الأمور. نعم. Donc le fait d'obéir aux dirigeants, c'est venu dans le Coran, tout comme c'est venu dans la Sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. On a lu plusieurs hadiths qui indiquent cela. Taïb, on s'était arrêté à la parole de Abdallah ibn ou de Sahl ibn Abdillah à Tusturi qui dit La yazalu an-nasu bi khair ma 'azzamu as-sultan wal 'ulama. La yazalu an-nasu bi khair ma 'azzamu as-sultan wal 'ulama. Fa idha 'azzamu hadaini aslaha Allah dina ou dunyahum wa ukhrahum. On s'est arrêté sur la parole de ce pieux prédécesseur qui dit les gens n'auront de cesse d'être dans un bien du moment qu'ils respecteront leur gouverneur ainsi que leur savant. Et s'ils respectent ces deux catégories de personnes, alors Allah subhanahu wa ta'ala améliorera leur situation dans ce bas monde et dans l'au-delà. Wa idha stakhaffu bihadaini afsada dunyahum wa ukhrahum. Tandis que si ils méprisent, si les gens viennent à mépriser ces deux catégories de personnes, alors Allah subhanahu wa ta'ala anéantira leur vie d'ici-bas ainsi que leur au-delà. Ensuite, le shir, il dit وَتَتَمُّ وُلَاتِ الْأَمْرِ بِأَحَدِ أُمُورِ أَرْبَعَ. طيب. Donc là, on va voir par quel moyen par quel moyen on se doit de reconnaître le dirigeant. Par exemple, par quel moyen le dirigeant arrive au pouvoir. Quels sont les moyens évoqués dans le Coran ou la Sunna qui explicite clairement que voilà, cet homme est à sa place. Tamam. Le premier, An-Nas min Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, فلو نص على أحد بعينه فإنه يكون خليفة بذلك. وقد قال بعض أهل العلم إن خلافة أبي بكر رضي الله عنه تمت بذلك. Donc tout d'abord, le premier des moyens, le fait que le prophète عليه الصلاة والسلام lui-même ait dit clairement et explicitement que telle et telle personne seront des dirigeants ou des gouverneurs après lui. Tamam. Et certains savants ont dit que cela a été avéré pour quel grand compagnon? Pour Omar. C'est-à-dire le prophète, il en a cité un des quatre. Par son nom, en disant qu'il sera... La première manière par laquelle le gouverneur il devient gouverneur, c'est le fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, il l'est cité par son nom, en disant que, voilà, le hukm là. Hein? Il n'y en a aucun. Le sahih, c'est qu'il n'y a aucun des compagnons qui a été cité par le prophète alayhi salatu wasalam comme étant le gouverneur après lui. Certains ont dit que ça a été avéré pour Abu Bakr, mais en vérité, il n'y a pas de texte précis où le prophète alayhi salatu wasalam il le nomme comme étant le futur dirigeant. تمام قال والصحيح طيب قال بعض أهل العلم إن خلافة أبي بكر رضي الله عنه تمت بذلك والصحيح أنه لم يتم نص أو لم يأتي نص خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعيين خليفة أو خليفة من بعده لا لأبي بكر ولا غيره. Donc la vie le plus juste, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais explicitement nommé un successeur après lui. Que ce soit Abu Bakr, que ce soit Omar, Le prophète n'a jamais nommé un successeur après lui explicitement. Comme a dit Omar radiallahu anhu, لما طلب منه أن يستخلف في مرض موته, قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني, يعني أبو بكر أو أبا بكر, وإن أترك فقد ترك من هو خير مني, يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc qu'est-ce qui nous montre que le prophète عليه الصلاة والسلام il n'avait pas nommé un successeur d'une manière précise? La parole de Omar, la parole de Omar avant qu'il meure. Car Omar avant qu'il meure, c'était lui le calife, l'émir de son époque. C'était lui le dirigeant de son époque. Et avant qu'il meure, on lui a demandé de nommer un successeur. Et lui, il a répondu, il a dit, si je nomme un successeur, alors certes, l'a fait celui qui est meilleur que moi, c'est-à-dire Abu Bakr. Abu Bakr, avant de mourir, il a nommé son successeur, il a nommé Omar. Tamam. Et il dit, Omar, il dit, mais si je délaisse le fait de nommer quelqu'un, alors certes, a délaissé cela, la personne qui est meilleure que moi, et il visait le prophète, alayhi salatu wassalam. Naam. ثم قال الشيخ وجاء عنه عليه الصلاة والسلام نصوص تدل على أن أبا بكر هو الأحق والأولى بالأمر من بعده, مثل تقديم النبي صلى الله عليه وسلم إياه في الصلاة بالناس في مرض موته. Bien sûr, il y a des textes on ne peut plus clair qui sont venus appuyer le fait que Abu Bakr était celui qui méritait le plus de succéder au prophète alayhi salatu wassalam. Comme le fait que le prophète alayhi salatu wassalam l'a laissé diriger la prière. L'a laissé diriger la prière en groupe lorsqu'il était malade. Lorsque le prophète était malade. Wa awdahu shay'in fi dhalik ma rawahu al-Bukhari wa Muslim bilafz. Et le dalil qui est le plus pertinent, qui montre que Abu Bakr était celui qui méritait le plus de succéder au prophète, c'est le hadith d'Aïcha, où Aïcha dit « Qala li Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi maradih, id'i li Aba Bakrin wa akhaki, hatta aktuba kitaban, fa inni akhafu an yatamanna mutamannin, ويقول قائل انا اولى ويأبى الله والمؤمنون الا ابا بكر. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام dit à Aïcha, lorsqu'il était dans sa maladie qui sera la cause ou qui provoquera sa mort, lorsqu'il était dans cet état Mada, il a demandé à Aïcha qu'elle appelle son père, ainsi que son frère. Pourquoi? Parce que le prophète a voulu leur laisser un écrit, en disant qu'il craignait qu'un quelconque désireux désire certaines choses et dise je suis plus en droit qu'un tel. Ensuite, le prophète, il dit, « Wa ya'ba Allah wal mu'minun. » Et certes, Allah désavoue toute autre personne, ainsi que les croyants. Il désavoue toute autre personne à ce sujet, en dehors de Abu Bakr. Donc ça, c'est un texte qui n'est pas forcément très explicite. Mais c'est le texte le plus pertinent pour dire que le sujet visé de ce hadith, c'est la succession du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc Allah et les croyants désavouent toute personne en dehors d'Abu Bakr pour la succession du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc ça, c'est la première étape par laquelle le gouverneur devient gouverneur. Ça veut dire, d'abord, on regarde ce qu'il y a. Une parole du prophète, alayhi salatu wassalam, qui le nomme. Tamam. Donc, comme on vient de le voir, il n'y a aucun texte où le prophète, alayhi salatu wassalam, a nommé clairement son successeur. طيب, ثانياً, اتفاق أهل الحل والعقد على تعيين خليفة. Deuxièmement, si les savants se regroupent, si les savants se regroupent et choisissent un dirigeant. Les savants, ils sont regroupés et ils sont tous unanimes sur un dirigeant. Alors ce dirigeant-là, il doit être élu comme tel. Enfin, vous comprenez qu'en islam, il n'y a pas d'histoire d'élection. Il n'y a pas d'histoire d'élection à proprement dit, comme on le voit actuellement à notre époque. Les élections, ce n'est pas du ressort de l'islam. Ce n'est pas du ressort de l'islam. Certains savants l'ont rendu permis pour des cas bien précis, mais sinon, ça reste une contradiction avec la religion. De quel point de vue les élections, ça pourrait être une contradiction, Yair Juan? Première des choses, c'est que c'est toutes les personnes, tous les gens de la masse qui peuvent voter et choisir. Et vous vous imaginez, juste le aql, il ne le conçoit pas. Que n'importe qui soit bon ou mauvais, qu'il ait une certaine connaissance ou non, il peut élire la personne qui va diriger le pays. Normalement, si on veut avancer d'une bonne manière, ceux qui doivent choisir ne sont autres que les gens dotés d'intelligence et les gens considérés comme étant vertueux. Pour que le choix, il soit restreint à quelqu'un de droit. Si quelqu'un, par exemple, c'est un voleur, on lui demande de voter. Lui, il va voter pour des gens qui penchent vers son penchant, ou pour des gens avec lesquels il va trouver une certaine commodité, une certaine facilité à continuer sur la voie dans laquelle il est. Par exemple, il y aura deux choix entre quelqu'un qui veut appliquer la charia et quelqu'un qui préfère ne pas l'appliquer. Il va choisir qui ? Celui qui ne l'applique pas. Parce que lui, c'est un voleur. Il sait que si on applique la charia, on va lui couper les mains. Non. Enfin, انظروا إلى مثل هذه النتائج المدمرة. طيب. Donc la deuxième manière parmi laquelle on élit un gouverneur, c'est que les gens de science se regroupent et en désignent un. وَيَدُلُّ لَهُ اتفاق الصحابة على اختيار أبي بكر للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اتفاق مستند إلى نصوص دالة على أنه الأحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما تقدمت الإشارة إليه قريبا. Donc la deuxième manière, c'est ça. Et dans chaque chose, Ikhwan, il faut s'appuyer sur une preuve. Là, si vous entendez ça de moi, il ne faut pas demain vous allez dans la rue et vous dites « Ouais, Jibril, il nous a dit. » Non. Il faut dire le dalil. Donc, c'est quoi le dalil qui dit qu'en islam, les dirigeants, ils sont élus par les savants de la communauté et pas par un groupe de savants. Le califat de Othman. Bah déjà, Abu Bakr, comment il a été choisi califa? Ça, c'est à l'unanimité de tous les compagnons. Tous les compagnons lui ont prêté allégeance. Et les compagnons, ce sont tous des ulémas. Les compagnons, ce sont tous des ulémas. Minhum huwa kabir fil ilf, wa minhum man duna dalik. لكن كلهم يوصفوا بالحل هو العقد، يعني بمعنى أنه ذا عقل ورزانة وعلم. نعم. Donc le dalil en soi, c'est l'élection de, enfin l'élection, c'est-à-dire c'est le la venue au pouvoir de Abu Bakr. Thalithan, la troisième manière, an ya'had al khalifa ila rajulin yali al khilafa min ba'de, kama hasala min istikhlafi Abi Bakr li Umar radiyallahu anhu wa yadullu lahu athar Umar radiyallahu anhu alladhi taqaddama qariban. Troisième méthode, le fait que le gouverneur précédent, il nomme un successeur. S'il nomme un successeur, fakhalas, la personne qu'il a nommée, elle doit être considérée comme le nouveau gouverneur. Et quatrièmement, et on termine sur ça, ya ikhwan, والرابع أن يتغلب على الناس رجل بالقهر والغلبة فيستقر له الأمر كما حصل من انتزاع أبي العباس السفاح الخلافة من بني أمية. طيب quatrièmement, et c'est la manière qu'on voit de nos jours, c'est lorsque la personne prend le pouvoir de force. Il prend le pouvoir de force. Comment on s'appelle ? Un coup d'État. Et c'est ce qui se passe dans la majeure partie des pays africains ou de certains pays arabes. Non. Donc là, lorsqu'il a pris le pouvoir par la force et que il a instauré sa dictature. Est-ce qu'on dit, lui, c'est pas un gouverneur parce qu'il l'a pris par la force ? Hein ? On dit quoi ? C'est un gouverneur ou là, c'est pas un gouverneur ?
C'est un gouverneur.
C'est un gouverneur, rien, quoi. Du moment qu'il a pris le pouvoir et qu'il a, il a instauré sa dictature ou son... son commandement, khalas, ça devient un gouverneur pour les musulmans de son pays. Il leur est formellement interdit de le combattre et de sortir contre lui. نعم. وقد ذكر هذه الأمور الأربعة القرطبي في تفسيره عند تفسير قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وذكرها شيخنا من محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان. Donc Cheikh Abd El Mohsin, il nous a évoqué ces quatre méthodes, ces quatre manières par lesquelles le gouverneur il devient gouverneur. Qui c'est qui peut nous le répéter en rapide? Ah. Le premier, c'est une parole claire du prophète alayhi salatu wasalam, et ça on a vu que c'est jamais arrivé dans le passé. Donc ça n'arrivera pas après. Taïd. Une parole du prophète alayhi salatu wasalam. Deuxièmement, voilà, l'unanimité des savants. L'unanimité des savants ont choisi un successeur, un dirigeant. Taïd. Troisièmement, c'est le gouverneur qui désigne son successeur. Et le quatrièmement, c'est la personne qui a pris le pouvoir par la force. C'est le hadith, voilà, le prophète alayhi salatu wasalam, qui désigne quelqu'un. Mais ça s'est jamais... Ça n'a jamais été avéré. Il l'a pas fait. Mais en fait, c'est pour dire que si le prophète, par exemple, il aurait dit... Viendra après moi un homme qui s'appelle Keda wa Keda. À lui c'est lui qui dirigera. Tamam? Fa khalas. Là t'as un texte. Wa al Mahdi, n'am, le Mahdi, le prophète alayhi salatu wa salam, il l'a évoqué. La ala annahu hakim. Il l'a évoqué, mais pas en disant que ce sera un gouverneur. Il a dit que ce sera quelqu'un qui va rétablir, la justice dans une époque où l'univers sera plongé dans des ténèbres. Et on pourrait comprendre aussi de ça que effectivement, ça peut être, il peut être considéré par rapport à ça comme étant un gouverneur. Il faut regarder dans les kutub de Shurahat lil Hadith, Ahsan et Hamza, on peut le comprendre comme ça. Faut voir dans les kutub de Hadith. Le Mahdi sera à l'époque où descendra Isa. Allez, c'est qu'à Dalek.
Avant, il serait désigné.
Hein?
Avant, il serait désigné, avant la descente d'Issa.
Avant la descente d'Issa, non. Issa, il va venir uniquement pour tuer le Dajjal. Enfin, pour tuer le Dajjal et pour affronter Gog et Magog.
Il veut aussi tuer le porc et rester.
Il va se réfugier dans les montagnes, plutôt.
Oui, mais bon, quand je dis affronter, c'est-à-dire. Voilà, pour rencontrer, en fait.
Résister.
Ou essayer de résister, là. Mais on a dit que il n'y a pas de prophète après le prophète, alayhi salatu wa salam. Alayhi salatu wa salam. Très bien. Lakin Isa ibn Maryam. Il va venir après, à la fin des temps.
Il va suivre la législation du prophète.
Mais avant lui, il était là.
Là, il ne sera pas en tant que nouveau prophète, mais il va suivre la législation du prophète.
Il va suivre le Coran et la Sunna. Il ne vient pas en tant que avec une nouvelle sharia ou une nouvelle réformation.
Dans le hadith, il va descendre et ils vont lui demander de diriger. Il va dire, faites diriger l'empire parmi nous. Ça, c'est le plus grand ami qui va suivre la législation.
Hadith sahih ou la daif, hada? Hadith sahih. Non, mais hadith sahih, عند un musulman.
C'est le Mahdi qui va diriger ce
moment-là. Ah ouais, c'est le Mahdi qui dirige.